Votre grand journal du soir jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy.
Et les grandes voix, c'est jusqu'à 19h chaque soir. Ils sont avec moi dans ce studio. Bonsoir Michel Cotta.
Bonsoir.
Bienvenue à vous. Charles Villeneuve est également présent, bien sûr. Bonsoir Charles.
Bonsoir.
Et Laetitia Krupa, que l'on accueille. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste de communication politique. Bienvenue à tous les trois. Merci d'être là. Et vous aussi au 39-21. Nous solliciter, nous interroger, les interroger et débattre avec les grandes voix. Avec deux grosses actualités ce jeudi. Bien sûr, la réforme des retraites. Ça y est, on connaît le calendrier, c'est le Premier ministre qui l'a dévoilé ce matin. Vous avez entendu, discours devant le Conseil économique et social, le vote d'ici l'été prochain, donc après les municipales. Donc je disais tout à l'heure qui va piano va sano, c'est ça, on prend notre temps. Surtout, ne brusquons pas, parce qu'il y a des grèves, demain RATP, lundi les avocats,
moi,
les infirmiers.
Je pense qu'il y a une autre idée aussi derrière.
Charles, quelle est-elle?
Diviser pour mieux régner et pour mieux imposer. Parce qu'avec l'histoire de la fusion des 42 régimes de retraite, vous voyez comment ça commence avec la RATP. Non, mais c'est pas une critique, c'est un constat, c'est la manœuvre classique, c'est stratégique, c'est normal.
En fait, on entre dans la bataille de l'opinion.
Évidemment.
Voilà, la bataille de l'opinion, qui va la gagner? Rappelez-vous la grève de la SNCF, la grève perlée pendant plusieurs mois. Finalement, elle a été étouffée à petit feu par le gouvernement qui joue l'opinion publique.
Bah oui, mais parce que Michel Cotta, c'est une bombe à retardement.
Il joue le temps aussi.
Bah oui.
C'est normal. C'est vrai que c'est une réforme très ambitieuse. Et moi, pour ma part, j'avais dit l'autre jour que je la trouvais trop ambitieuse parce que pour faire tout ça à la fois, c'est beaucoup. Mais en revanche, il n'y a qu'une façon, c'est de faire un calendrier où on annonce dès maintenant ce qu'on fait. On passe effectivement le cap des municipales. Il vaut mieux. Et après, c'est la parlotte généralisée de tous côtés. Bon, ça dégonfle les choses. C'est
moi,
vrai qu'il dit
moi,
ça.
Moi, je trouve que le président de la République a eu une forme d'humour, d'ailleurs, en nous disant que rien n'est décidé.
Oui.
Or, je trouve que ce qui est déjà prévu et déjà fixé, c'est le système de calcul par points. Ce qui est déjà encore prévu et déjà fixé, c'est la fusion des 42 régimes de retraite qui seront financés par tous.
Sans rien,
on n'en faire qu'un seul. On le voit avec la RATP, déjà, quand on voit les avantages des gens des transports. Je comprends que les 100% de grévistes, évidemment, s'y mettent. Parce que il faut pas oublier que les Français financent la retraite des gens des transports à raison de 11 euros par Français.
Ouais, bien sûr.
Puisque 764 millions ou je sais plus combien sont financés par l'État.
Donc, dans le temps, il y a aussi
61% des
retraites.
Dans
le temps, il y a aussi, pour le coup, il n'y a pas uniquement l'année en cours, il y a 2040
bien
quand
sûr.
Même. Donc, la période de transition me semble quand même très,
durable, très, voilà. Très étendue. Ça laisse le temps un petit peu de se retourner. Laetitia Krupa, il y a évidemment les déclarations du Premier ministre à la mi-journée. Et puis, ce soir dans le 20h, pédagogie quand tu nous tiens.
Oui, c'est un peu obligatoire. Le 20h, finalement, ça reste le grand exercice de communication politique. On a beau dire ce qu'on veut, c'est le rendez-vous pour n'importe quel politique qui veut annoncer une réforme et faire la pédagogie. Or, pardon déjà de mordre sur le deuxième sujet, mais à mon avis, cette communication va être complètement parasitée par l'affaire Ferrand.
On va y venir. Ne brûlons pas les étapes, on va y venir. Je voudrais juste prendre une auditrice, si vous le voulez bien.
Moi, je crois le contraire.
Il y aura forcément une
question. Je crois que ça va atténuer l'affaire Ferrand. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la prudence de la plupart des grands partis.
Ne brûlons pas les étapes. Charles, ne brûlons pas les étapes, s'il vous plaît. On a Hélène qui nous appelle de Lille. Hélène, bonsoir, bienvenue au 39-21 sur Europe 1. Merci à vous. Hélène, vous avez une vision de cette réforme qui est plutôt négative?
Tout à fait. Je vous remercie de me laisser la parole. Voilà, je suis profession libérale et je voudrais faire part de notre mécontentement et vous donner des exemples concrets de ce que va engendrer ce projet de réforme sur notre quotidien. Il faut savoir que nous, les professions libérales, notamment
mais
les professions paramédicales...
Orthophonistes, hein, voilà. C'est ça, Hélène?
Les orthophonistes, les kinés, les podologues, les infirmières libérales, les ostéopathes, nous appartenons à des caisses de retraite autonomes.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'elles sont autogérées, elles sont excédentaires, on a des réserves puisqu'on les gère correctement. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je vais partir à la retraite à 67 ans pour avoir un taux plein, en gagnant 35 000 euros par an, j'aurai une retraite de 1 000 euros.
Ouais. Non, vous mais voyez, parce que, ce qu'il faut préciser, noms. Effectivement, vous avez raison, Hélène, c'est important, et on va en reparler à 19h30 dans le prochain débat avec nos invités, parce qu'on va expliquer effectivement au cas par cas les professions libérales très fortement impactées par un doublement de les cotisations de 14, ça passe à 28%, et c'est vrai qu'on n'en parle pas nécessairement, donc vous faites bien effectivement de pointer ce soir le rétroprojet, enfin le plutôt de zoomer là-dessus. On va y revenir dans un petit instant, merci Hélène, avec les grandes voix sur les retraites et puis sur le cas Ferrand. Peut-il rester ou pas ? Peut-il tenir ? À tout de suite.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et jusqu'à 19h, les grandes voix autour de vous, Nathalie. Ce soir, Michel Cotta, Charles Villeneuve, Laetitia Krupa, spécialiste de communication politique. Et toutes vos réactions en direct, n'hésitez pas, 39-21.
Je voudrais qu'on reste avant d'aller sur le cas Richard Ferrand. Hein. Je dis le cas Richard Ferrand parce qu'il y a quand même la question de savoir comment va se dessiner son avenir. Juste sur les retraites, parce qu'on attend la prise de parole tout à l'heure, enfin en tout cas l'interview du Premier ministre Édouard Philippe dans le 20h. Quand même, Emmanuel Macron, il s'est rabiboché avec le patron de la CFDT, Laurent Berger, sans qui rien n'aurait été possible. On voit que Emmanuel Macron, l'envie d'enjamber les corps intermédiaires, c'est plus d'actualité du tout. On est revenu à un sens, à leur donner une importance, à leur donner une place.
Bah, rappelez-vous, il l'a dit lui-même, j'ai changé. C'était sur un média en ligne. Voilà, c'était l'acte 2. Alors l'acte 2, c'est revenu dans la bouche d'Édouard Philippe. On a bien compris, les éléments de langage sont maîtrisés, martelés comme il faut. Donc nous sommes dans la séquence de l'acte 2, du j'ai changé. Et tout d'un coup, oui, le corps intermédiaire reprend sa place. Est-ce que c'est pas trop tard ?
Et là, ils sont plus en tout cas des ralentisseurs pour Emmanuel Macron, Michel Cotta.
C'est plutôt qui, de ce point de vue-là, n'a pas été raté, terrible. Oui. Parce qu'il est évident que même si on est élu au-delà des corps intermédiaires, ce qui a été le cas, il est évident que...
On ne peut pas les négliger, les mettre de côté comme ils les avaient enjambés.
Si on les néglige, ça vous finit toujours par vous retomber sur le nez. Donc c'est plutôt, de ce point de vue-là, peut-être que Laurent Berger aurait, si on l'avait écouté, aurait évité beaucoup d'erreurs.
Charles Villeneuve, on peut, comme on les a maltraités avant, réussir là à les amadouer, à les avoir de son côté ?
Tous ?
Tous jamais.
Non,
mais Laurent Berger, le dialogue,
si vous voulez, maintenant, il a radicalement changé parce que prudence, dialogue,
justice,
humilité,
l'interrogation, c'est est-ce qu'on fait quelque chose quand
je pense que c'est un très bon stratège et qu'il a changé par aussi tactique et stratégie. Qu'il a pris les gilets jaunes, évidemment, en pleine figure, inattendu, qu'à un moment donné, ça a chauffé quand même de manière assez rude, il faut le dire.
Et ils ont promis de revenir le 21, c'est
alors, voilà, ce maintenant, fini, hein. Ils sont pris, vous savez, de nostalgie de retour, les gilets jaunes, donc ils veulent revenir sur les ronds-points, mais en même temps, pour utiliser une expression chère à la Macronie, je crois qu'il a raison quand même d'avoir changé, radicalement changé, parce que là, il s'attaque à ce qui est la mère des batailles de toutes les réformes. Et il ne pourra pas, si vous voulez, tenir le même langage et la même attitude et la même stratégie que pour la réforme de la SNCF, que réforme du Code du travail. Là, on s'attaque à quelque chose qui est le fondement même, si vous voulez, du pacte social français.
Ouais. Alors en tout cas, pédagogie, temps long, concertation, etc., personne n'est dupe parce qu'effectivement, grève à la RATP à partir de demain, ça va être très tendu. Et puis, il y a quand même cette journée de blocage. Lundi, pardonnez-moi juste Michel, avocat, pilote de ligne, steward, hôtesse, infirmier. On peut imaginer que comme ça, il va y avoir cette espèce d'agglomération.
On va voir, peut-être qu'ils vont, sans doute tout faire pour l'éviter. Ouais. Mais enfin, de deux choses l'une. Où on trouve que le système de retraite est viable, où on trouve que le système n'est pas viable. Et qu'il n'est pas viable parce qu'on passe tous beaucoup plus de temps à vivre. Ouais. De temps en temps, en mauvaise santé, ce qui en plus accroît les charges. On trouve que c'est viable. À partir du moment où on pense que ce n'est pas viable, le boulot d'un homme d'État, c'est plutôt d'essayer d'arranger ça. Maintenant, il n'y arrivera peut-être pas.
Tout l'art de la communication politique.
On verra à l'œuvre à 20h. Écoutons Sibeth Ndiaye, si vous le voulez bien. Elle était ce matin au micro d'Europe 1, au micro précisément de Sonia Mabrouk. On parle du cas Ferrand, bien entendu.
On ne fait pas comme si de rien n'était. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est dans une société dans laquelle, dès que vous avez vaguement maille à partir avec la justice, dès que vous êtes impliqué dans une procédure, on vous cloue au pilori. En regardant ce qui s'est passé récemment pour François de Rugy, parfois, sans doute, on va un peu trop loin.
On vous cloue au pilori dans cette société ?
Ah, bah, dès que, à la moindre, effectivement, à la moindre mise en examen. On attend la mise en examen.
Oui. Moi, je pense que le café rang dépasse tout ça. Ouais. Si vous voulez, pour moi, c'est un exemple caricatural de l'absurdité du système pénal français. Pourquoi ? Parce que vous avez une association qui s'appelle Anticor, qui procède d'ailleurs surtout de magistrats. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a dépaysé l'affaire à Lille, car elle devait se faire et être traitée par un magistrat qui est aujourd'hui parti à la retraite, qui est un exemple, si vous voulez, d'équilibre, c'est Van Runbeek. Et tout d'un coup, il s'aperçoit qu'à une audition, eh bien, il a devant lui le vice-président du tribunal de grande instance de Paris, hein, Eric Alt, pour ne pas le citer, et qui est le représentant d'Anticor. Et puis il s'aperçoit que qui a créé Anticor, finalement, c'est Eric Alphen, un autre magistrat. Il se dit, mais quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Il y a deux parquets, alors. Il y a le parquet public, c'est-à-dire par délégation du ministre de la Justice, le procureur, ce qu'on appelle l'avocat général, notamment en cour d'assises. Et puis, il y a le parquet privé d'Anticor, qui, lui, se constitue partie civile.
Oui, mais Charles,
s'il vous plaît.
Bah, juste d'accord, mais le fond de l'affaire.
Oui, mais le fond de l'affaire, c'est quoi ?
A-t-il privilégié ou pas sa compagne ?
Madame, il a été innocenté deux fois par deux parquets différents. Et c'est la raison pour laquelle il ne va pas démissionner. Parce que la présomption d'innocence, elle joue.
Faut la rappeler.
Est-ce que Anticor a raison par rapport à la justice française ? Et c'est ça que j'appelle un exemple caricatural de l'absurdité. C'est quoi ? C'est un parquet privé qui finalement fait appel d'une décision de justice, de la justice française. Et donc il est normal qu'il ne le démissionne pas, moi je trouve.
Il est mis en examen.
Il est présumé innocent.
Que quand vous constituez partie civile, vous êtes automatiquement mis en examen.
Pourquoi en 2017, Édouard Philippe dit si il est mis en examen après que le canard enchaîné ait révélé l'affaire, il sera immédiatement démis de ses fonctions. Oui, il était ministre. Donc pourquoi il y a deux poids, deux mesures ? Quand on est ministre, on est démissionné, mais quand on est président parce de l'Assemblée nationale, on peut rester. C'est compliqué à comprendre.
Comment on explique, pour la remarque de Michel, c'est ce qu'on appelle la connaissance du droit français.
Qui prend des décisions, etc. Oui. Par conséquent, un ministre mis en examen, toutes ses décisions sont regardées autrement. Là, c'est le président, c'est législatif. Il y a d'ailleurs beaucoup de députés, il y a pas mal de députés mis en examen qui restent députés. On ne va pas les citer, mais il y en a pas mal. Et d'ailleurs, je remarque qu'aujourd'hui, moi, je m'attendais quand même à une ébullition beaucoup plus importante à l'Assemblée que. Voilà, en attendant,
on voit silence radio.
Calme.
Exactement.
Tout le monde calme.
C'est effectivement plutôt silence radio. On va y revenir dans un instant, là, avec des auditeurs qui nous appellent parce que c'est un sujet et qui fait débat, clairement. Donc on reste ensemble dans une seconde, on se retrouve.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h. N'hésitez pas à les interpeller au 39-21. Aujourd'hui, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Laetitia Krupa, spécialiste de communication politique, réagissent à l'actualité.
Et on réagit vivement dans ce studio à l'affaire Ferrand. Richard Ferrand peut-il tenir ? On a entendu Emmanuel Macron lui réaffirmer sous son tien. Dans son entourage, on dit qu'il est serein. Moi, je me dis quand même, il y a une loi qui a été votée, une loi de moralisation de la vie publique. Alors, je sais, Charles, que vous allez me griffer.
Mais j'attends, que vous me donniez justement l'explication de cette loi.
Mais non, mais est-ce qu'on n'est pas dans la promesse d'exemplarité du coup ?
Que stipule cette loi ?
Charles, est-ce qu'il faut l'exemplarité
attention,
là-dedans ?
Attention, ne citez pas des lois sans les connaître.
Est-ce qu'on doit être dans l'exemplarité quand on a ce texte-là ?
Non, mais attendez, là, il faut attendre. Pour le moment... En attendant, comme dit, pour le moment, il y a deux juridictions qui ont dit non.
Pourquoi François Bayrou est parti ?
C'est un ministre. Eh bien, justement, je voudrais parler de François Bayrou. Parce qu'au fond, de quoi on s'aperçoit ? Ils sont convoqués tous à la même heure. Ils sortent tous très tard la nuit. Il suffit que l'un soit mis en examen. Quant à Bayrou, il affronte les caméras, il affronte les journalistes, il dit vous colportez de mauvaises nouvelles, de fausses nouvelles, et moi, j'ai pu donner la preuve de la vérité. Paf, plus personne n'en parle. J'ai pas entendu dire que Bayrou avait dit je vous donne la preuve de la vérité.
Michel,
en revanche, ceux qui ne la donnent pas. Non, c'est vrai qu'il y a quand même un côté.
Le problème, c'est que.
Non, mais Michel, elle a fait une bonne remarque tout à l'heure.
Il est ministre.
Oui, il appartient au pouvoir exécutif.
Mais pour les Français, vous savez bien qu'il y a une défiance de plus en plus criante de la population.
Mais c'est à nous de ne pas confondre. C'est à nous de ne pas confondre.
Alors, Richard Ferrand, en 2017, écrit un tweet « Il faut des règles de morale publique pour réconcilier les Français et le monde politique ». C'est lui qui l'écrit. Enfin, alors que mettons dans la morale publique?
C'est ça, c'est toute la différence.
C'est compliqué pour les Français.
La complexité du sujet aussi avec beaucoup de
l'auditeur. C'est un cas sans précédent. Vous avez deux juridictions du parquet représentant l'État, qui l'élargit en disant de toute façon il n'y a pas prise illégale d'intérêt. Et puis sur constitution de partie civile, vous savez que la justice est obligée de suivre. Sur une constitution de partie civile, vous met en examen. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il sera condamné par des juridictions de jugement.
Alors attendez, Denis est en ligne avec nous depuis les...
On peut plus parler d'indélicatesse peut-être, qui de toute façon n'est pas, n'est pas reconnue par la justice. On peut peut-être parler d'indélicatesse, mais voilà, c'est effectivement une indélicatesse.
En revanche, quand Fillon était mis en examen, il tweetait, il a perdu toute autorité morale. Encore Richard Ferrand.
Attendez, on a Denis qui nous appelle des deux, si vous le voulez bien, et il n'est pas le seul, parce que nombre d'auditeurs nous contactent ce soir au 39-21. Bonsoir Denis.
Bonsoir à vous Nathalie et à vos grandes voix.
Merci d'intervenir ce soir en direct. Qu'est-ce que vous dites, vous que on...
Oui, je vous écoute Nathalie.
Non, allez-y, quel est votre point de vue?
Mon point de vue, c'est que le débat sur l'éventuelle démission de Richard Ferrand est un débat qui ne devrait pas avoir lieu. Parce qu'au début du quinquennat Macron, la loi sur la moralisation de la vie publique aurait dû comporter un volet du statut de l'élu et aussi incluant les désignés tels que les ministres et les secrétaires d'État. Avec une clause de sauvegarde, c'est-à-dire si on est mis en examen, on est mis en retrait de la fonction, on continue à toucher son salaire, ses indemnités, mais on sort du jeu politique parce que aujourd'hui, moi, je vois difficilement un député voter une loi alors qu'il est lui-même mis en examen. Cela me semble incongru, et de même qu'un ministre mis en examen s'en allant défendre une future loi devant la représentation nationale. Ça l'est autant, je pense. Donc, il fallait faire avancer lors de cette loi sur la vie publique, ce statut de l'élu qui manque tellement et puis qui réglerait tous ces problèmes qu'on a avec ce débat sur Richard Ferrand.
Michel Cotta,
vous avez assez raison, il fallait faire un statut de l'élu, y penser. Le problème, c'est qu'on voit très bien, ils sont tous soumis à des déclarations devant les plus hautes instances, la comité de transparence, et bon, etc. Ils sont tous... Et il y a toujours quelque chose auquel on ne pense pas ou auquel on affecte de ne pas penser qui passe à travers. Mais la transparence absolue, il faut bien se le dire, n'existe pas.
Merci beaucoup, Denis, d'être intervenu.
Merci, Denis. J'entends bien la suggestion de Denis qui est placée au coin du bon sens. Bon,
oui, où on fait un statut de l'élu, on en fait pas.
Il faudrait un statut de l'élu qui comprend le législatif en même temps que l'exécutif.
Et c'est pas compliqué.
Pour replacer la remarque de Michel. Dans l'affaire du cas Ferrand, c'est quand même très différent. Parce que vous avez deux instances du parquet de l'État représentant l'État, puisque l'État, en l'espèce, le ministère public est l'avocat, si vous voulez, du plus grand nombre des Français. C'est comme ça, au fond, que ça a été prévu. Et là, vous avez un parquet
décidément,
privé,
hein.
Oui.
Privé
qui fait que, par deux fois, cet homme a été, en quelque sorte, innocenté, qu'il n'y avait pas d'élit de prise.
Mais on est d'accord, Charles, mais qu'est-ce que ça changerait qu'ils se mettent en retrait.
Je vous pose la question, ça va passer, si on écoute Charles, ça va passer, on va compter sur la lassitude autour de cette affaire,
Non, Ferrand, c'est un pilier de la Macronie, donc quel est le message envoyé ce soir? Pardon, je me fais encore une fois l'avocat du diable, les Français, comprennent?
D'ailleurs, on vous pardonnera pas.
Les Français ne comprennent pas présomption d'innocence, les Français comprennent République des copains. Oui, non, mais on est d'accord. On est d'accord, mais il y a toujours ce sentiment de privilège.
Pour les Français, c'est présumé coupable. C'est pas
Vous êtes quand même d'accord avec nous sur le fait que nous, journalistes...
Non, je pense qu'Emmanuel Macron n'aurait pas dû le soutenir.
Oui, non, mais d'accord, mais ça, c'est votre opinion. Mais je pense que nous, les journalistes, nous devons faire des distinguos et nous devons expliquer ce qui peut se passer dans le cas spécifique, justement, de Richard Ferrand. On peut le comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on l'approuve, si vous voulez. Mais on peut le comprendre.
Merci. Merci, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Charles Villeneuve. Merci, Michel Cotta. Laetitia Krupa également. On vous retrouve demain, les amis, les grandes voix. À la même heure.
Ben oui.
Europe 1. Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, la suite.
La suite, c'est dans un instant, le journal de 19h de Sébastien Krebs à la une de l'actualité. Cette grève monstre à la RATP qui se prépare. Comment les entreprises, tiens, on zoome sur elles, les entreprises, comment se préparent-elles?
Vous écoutez Nathalie Lévy jusqu'à 20h sur Europe 1.